Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Kawanou et bienvenue dans cette 18e émission.
Édition 2023.
La dernière fois, nous avions achevé d'examiner les sacrifices humains et les chants exécutés en même temps que les victimes Heaka. Maintenant que nous connaissons mieux la société traditionnelle ancienne, nous pouvons reprendre l'étude chronologique de l'histoire de la Terre des Hommes là où nous l'avions laissée, c'est-à-dire, souvenez-vous, en janvier 1799, après le départ du pasteur Crook de Nukuhiva. En réalité, nous allons commencer à survoler la décennie 1800 jusqu'en 1805 pour voir le rôle joué par les étrangers beachcombers, écumeurs de grève et le passage de plus en plus fréquent des navires baleiniers. Après avoir regardé les estimations de population de l'époque, nous verrons que c'est à cette période-là qu'ont été constatées les ultimes tentatives de migration au départ des Marquises. Nous avons déjà parlé de ces étrangers beachcombers, écumeurs de grève qui vivent dans l'archipel et gagnent leur vie en servant d'interprètes et de guides aux navires de passage. Il est important de parler d'eux, car comme nous l'avons déjà vu, par leur présence, leur comportement et leurs actes, ils contribueront largement au démantèlement de la société ancestrale. De 1799 à 1806, deux d'entre eux resteront célèbres. L'anglais Edward Roberts est arrivé à Tahoata en décembre 1798. Il passe quelques mois à Hapatoni et Waitahu partageant la vie des deux chefs locaux.
Tainai ou Tenai-i à Waitahu et Tehue ou Tefitike à Hapatoni.
Il partira ensuite à Hiva'oa où il vit soit à Puama'u,
soit à Hana'i'apa qu'il nomme Hanatita'apa,
nous laissant ainsi le premier témoignage sérieux de la vie sur cette île, où il fut le premier Européen à résider pendant plusieurs mois. En 1801, il part à Nukuhiva, où il échange son nom
avec un petit-fils de Kiatonui, chef dont il épousera aussi une sœur, vers 1804.
Faisant ainsi partie de la famille du chef, il a une vie tranquille, assurée. Lui aussi vient en aide au navire en escale. Il partira de Nukuhiva en 1806 avec sa fille et sa femme. Mais lui, il laissera un journal très fiable qui a été sorti de l'oubli et publié par Greg Denning en 1974.
Je vous ai déjà dit que j'avais traduit ce journal en français en 2016 et qu'il a été publié en septembre 2018 aux éditions Haerepo de Tahiti. Le second étranger arrivé en février 1799 est le français Joseph Cabri.
Il est très jeune, 16 ans, 17 ans, bien intégré par le marquisien, a une épouse marquisienne et des enfants. Après avoir vécu à Tahuata où il avait déserté, il vient à Nukuhiva qu'il quittera en 1804 dans des circonstances que nous verrons la prochaine fois. Il a laissé un journal contenant beaucoup de détails fantaisistes sur lesquels on ne peut pas vraiment compter
pour se faire une véritable idée de sa vie à Nukuhiva.
Retrouvons maintenant Roberts à Waitahu où du 8 au 29 janvier 1799, fait escale le baleinier London, capitaine Gardner.
C'est à ce moment-là et de ce navire-là, le London, que Joseph Cabri déserte. Et le navire revient.
Du 21 février au 1er mars, le navire ayant capturé un cachalot et d'autres cétacés plus petits.
Il revient pour nettoyer les animaux capturés, faire des provisions, mais surtout pour réparer un mât endommagé. Et Roberts obtient une belle pièce de bois auprès du chef de Hapatoni,
Tehue Otefitike,
et le navire peut repartir en toute sécurité.
Avant de lever l'ancre, les capitaines avaient pour habitude de rédiger des certificats attestant des services rendus par telle ou telle personne et qu'on pouvait compter sur lui. ou sur elle. Au navire suivant, on montrait les certificats pour s'attirer les bonnes grâces du nouvel arrivant. Au départ de ce navire, donc, le London, le Tahitien Haraoaia quitte Tahuata pour l'Angleterre. Rappelez-vous qu'il était arrivé en même temps que Crook en 1797, donc 2 ans auparavant. Comme nous le verrons signalé à de nombreuses reprises, les grands cachalots étaient alors très nombreux dans les eaux de l'archipel, ce qui explique le nombre de navires baleiniers qui y croisaient, faisant escale dans les îles pour se ravitailler en vivres frais. Tout le monde connaît la forme massive de la tête du cachalot et aussi sa puissante mâchoire longue et étroite. Cette grosse tête contient un énorme organe huileux qui lui sert de caisse de résonance quand il communique par clic avec les autres cachalots. Une fois fondue et traitée, cette graisse donnait une huile extra fine de grande qualité, servant aussi bien à la lubrification qu'à la cosmétique et même à l'éclairage avant la révolution électrique. Les Marquisiens connaissaient les dents de cachalot bien avant l'arrivée des Européens. Elles avaient une valeur inestimable, aussi bien en raison de leur rareté que de leur provenance animale. Les anciens Enana ne chassaient pas le cachalot, mais parfois, comme on le voit de nos jours, peut-être certains de ces monstres s'échouaient-ils, donnant ainsi aux hommes l'occasion de collecter leurs dents. Ces dents étaient aussi collectées par tous les marins baleiniers qui en possédaient des centaines, lesquels leur permirent de commercer facilement avec les Enana au début du contact. Le 21 février, d'après son journal, Cabri quitte Tahuata et son épouse, marquisienne, en raison des conflits qui y règnent. Le 7 mars,
Cabri débarque à Nukuhiva,
où il rencontre un autre beachcomber du nom de Walker, qui est le seul sur l'île à posséder un fusil. Donc ça, c'est en mars 1799. Tantôt, ce Walker est avec Cabri, tantôt il est avec Robarts à partir de 1800. Il y a aussi l'anglais James Wilson, qui restera jusqu'en 1813, mais qui, en 1811, avec un autre beachcomber du nom de Cox, fournira sa première cargaison de santal à Rogers, capitaine du bateau nommé Hunter, le chasseur. Et en 1813, comme nous le verrons dans deux émissions, il servira d'interprète à Porter et sera un élément clé de la rébellion contre son lieutenant Gamble en mai 1814. C'est aussi au cours de l'année qu'à Tahuata meurt le Hawaïen Tama Ta'aka'ie, terrassé par la tuberculose qu'il avait rapportée de Boston. Craig Denning nous donne son avis sur la mort de Tama. Désespéré et malade, il avait à plusieurs reprises tenté de se pendre. En cela aussi, il augurait le futur des Enata. La maladie qui avait traversé le rivage les faisait mourir et eux, dans leur désespoir, voulaient devancer la mort en mettant fin à leur jour.
Dans son journal, Edward Robarts nous raconte cette fin tragique de Tama, dont la maladie était si avancée que Robarts lui-même ne put y apporter remède. Le docteur Rollin écrira plus tard que c'est probablement lui, Tama, qui a introduit la tuberculose Pococo dans l'archipel, causant ainsi la mort de 60% de la population en 130 ans.
En 1800, les estimations de population en fonction des calculs de l'époque sont de, pour le groupe sud-est, de 20 000 à 50 000 habitants, pour Nukuhiva entre 12 000 et 40 000. Les spécialistes actuels estiment la population totale d'alors à 45 000 habitants. Personnellement, et en fonction des chiffres donnés par Cook et d'autres, je pencherai plutôt vers un nombre avoisinant
les 80 000
pour les 6 îles de l'archipel. Toujours vers 1800, on signale les dernières tentatives de migration en pirogue.
En novembre 1806, 9 mois après avoir quitté Nukuhiva, Edward Robarts vit auprès des missionnaires protestants à la pointe Vénus à Tahiti. C'est là qu'il apprend d'une femme, Paumotu, ayant fui les Tuamotu avec sa famille, qu'une tribu ayant quitté les Marquises en pirogue s'est retrouvée sur un atoll au sud où les migrants se sont fait massacrer. Grâce au journal de Robarts, nous apprenons donc avec certitude qu'entre mars et novembre 1806, la tribu des Ka'awahopeoa a quitté la vallée de Haka'ohoka à Uapau pour toucher terre à Napuka, où les migrants ont été massacrés, sauf une jeune femme, nous dit la légende qui entoure cet épisode.
De nos jours, on sait que les descendants de cette tribu vivent sur Napuka.
Nous en reparlerons dans la prochaine émission.
En 1811, craignant d'être chassé de ses terres par les tribus Taipi de Vaihi, Timo Taipi, chef des Teava'ani de Ho'oumi, fait construire plusieurs pirogues doubles dans le dessein d'abandonner sa vallée et d'aller chercher d'autres îles. Lorsque la paix survient, les pirogues sont démontées et stockées dans une habitation bâtie exprès pour parer à tout imprévu. En 1813, l'écumeur de grève James Wilson racontera au Commodore Porter que depuis son arrivée aux Marquises en 1799, il estime à près de 800 le nombre des personnes ayant quitté l'archipel dans des expéditions de découverte de nouvelles terres. Une seule rescapée a été retrouvée sur Eyao.
Toujours dans son journal, Edward Robarts nous compte le nombre de fois qu'il est intervenu pour empêcher des gens, souvent motivés par des prophéties du grand prêtre Tau'a, de prendre la mer en quête de terres merveilleuses où jamais ils n'arrivaient.
À la fin de 1800, le 2 décembre à Londres, c'est le jeune Timautete, embarqué avec Crook sur le Butterworth, qui meurt. Il est enterré sous le nom de John Butterworth.
Chers amis, c'est avec la mort de ce garçon loin de sa terre natale que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Ne manquez pas la prochaine émission au cours de laquelle nous continuerons la traversée difficile de cette première décennie du 19e siècle qui, aux côtés des navires baleiniers, verra l'apparition des navires en quête de l'or des Marquises, le Santal.
À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook TEO et sur mon site internet teo.com. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail copo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719.
Et merci à Thérèse Heikapua Moke pour sa chanson Kaoha Fatuiva Un salut à Fatouiva, île d'origine d'une partie de ses ancêtres.
À bientôt, à Pai, au Oahu.
No te aquí en nada.